Alors, en fait, nous allons reprendre et développer des points que j'avais déjà abordés dans les séances précédentes, où nous nous étions interrogés sur la notion de religion, à l'aide du texte de Roger Pouivet, nous avions aussi examiné les conditions de leur cohabitation et la difficulté qu'elles avaient à cohabiter lorsqu'on les comprenait comme des doctrines qui s'opposaient. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce qu'est la religion et rendre compte de la manière dont la tradition thomiste parle de la religion. Elle en parle comme d'une vertu et, à mon sens, cette compréhension de la religion comme une vertu, c'est-à-dire une qualité, une force d'âme, peut nous aider à comprendre ce qu'est cette vraie religion dont nous avions vu au cours de la première séance que le Concile Vatican II disait qu'elle subsistait dans l'Église catholique. Pour présenter de façon vivante ce que saint Thomas et la tradition thomiste après lui disent de la religion, j'ai eu l'idée de reprendre l'exposé d'un auteur qui est assez connu dans l'histoire de l'Église, qui est Monseigneur Maurice d'Hulst. C'est un auteur de la fin du XIXe siècle, qui est le fondateur de l'Institut catholique de Paris, dont il était le premier recteur, un théologien et philosophe qui a participé au renouveau thomiste à la fin du XIXe siècle, à l'époque de Léon XIII, mais aussi un grand prédicateur, directeur spirituel et un homme politique. Monseigneur d'Hulst a prononcé des conférences de carême à la fin du XIXe siècle, et nous allons partir de deux d'entre elles qui datent de 1893. Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler que 1893 et les années suivantes sont les dernières années de la vie de Thérèse de Lisieux. Vous savez, vous vous souvenez peut-être qu'elle meurt en 1897, c'est 1893-1894, le moment où elle découvre sa petite voie. 1895, c'est l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, qui est un acte éminemment religieux, puisque elle le présente, Thérèse elle-même, comme un holocauste, mot qu'on va retrouver dans ce que Monseigneur d'Hulst, son contemporain, qu'elle-même connaissait, hein, sans doute ses conférences devaient être lues au Carmel, un mot donc qu'on va retrouver chez Monseigneur d'Hulst, celui de l'Holocauste. Dans les conférences de carême de Monseigneur d'Hulst, ce sont donc des prédications, mais dont la teneur est principalement philosophique, et notre but dans nos réunions, c'est de faire de la philosophie, de réfléchir à la religion au regard de la philosophie. Et c'est aussi le but de Monseigneur d'Hulst, dans le désir de défendre la cause de la religion à une époque où en France elle était en butte à la contradiction, voire ce qu'on peut, je crois, appeler des persécutions contre notamment les congrégations religieuses. Dans ces conférences de carême, dans ce contexte à la fois spirituel, j'ai parlé de Thérèse de Lisieux, historique, hein, moment où cléricaux et anticléricaux s'affrontent, c'est aussi le moment de l'affaire Dreyfus, si vous voulez. Monseigneur d'Hulst parle à Notre-Dame, dans ses conférences de carême, des devoirs envers Dieu. Il va parler, après avoir commenté le premier commandement du Décalogue et avoir notamment parlé des vertus de foi, d'espérance et de charité, spécifiquement de la vertu de religion. Et dans son enseignement, il reprend les grands traits de l'enseignement thomiste, mais sans l'équipement technique qui nous rend peut-être aujourd'hui, comme c'était le cas de l'auditoire de Monseigneur Dulle, c'est un peu difficile l'accès au texte de saint Thomas. Donc, Monseigneur Dulle a parlé dans une conférence précédente de la foi, de l'espérance et de la charité. Quand Dieu parle pour se faire connaître à moi et me faire ses promesses, je le crois, je l'espère et je l'aime. Et la foi, l'espérance et la charité sont déjà un culte rendu à Dieu, c'est-à-dire un culte, un hommage qu'on lui rend, une reconnaissance de sa grandeur. La foi honore la vérité de Dieu, l'espérance honore la bonté de Dieu, dont je peux tout attendre, la charité honore la perfection de son être. Et ces trois vertus, pour utiliser ce terme philosophique, théologique, c'est-à-dire ces trois aptitudes dites théologales par la tradition scolastique, sont considérées en christianisme comme les plus nobles parmi les vertus, parce que elles m'unissent directement à Dieu. Quand je crois Dieu qui me parle, quand j'espère Dieu et ses promesses, l'accomplissement de ses promesses, lorsque je l'aime pour tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il me donne, je suis uni à Dieu lui-même. Les vertus dites théologales sont appelées de cette manière parce qu'elles touchent Dieu lui-même, elles touchent le fond de son être. J'ai rapport immédiatement à Dieu lorsque je crois, j'espère et j'aime. Et je suis assimilé d'une certaine manière, je ressemble à ce qu'il est. Les autres vertus, celles qu'on appelle morales et dont les principales sont la justice, la vertu de discernement, ce qu'on appelle dans la tradition la prudence, la force et la modération, elles ne sont pas des vertus théologales qui m'unissent immédiatement à Dieu, mais elles tendent vers Dieu, comme toute la vie morale de l'homme juste doit tendre vers Dieu et vers la béatitude qui nous destine. La vertu de religion relève du domaine de la justice. La deuxième des vertus dites cardinales, après celle de la prudence ou du discernement. Donc la vertu de religion relève du domaine de la justice. Il s'agit dans le domaine de la justice, de cette vertu qui m'habilite à rendre à autrui ce que je lui dois. Mais lorsque autrui est Dieu, je ne peux que très partiellement répondre à cette finalité des vertus, parce que ce qu'il m'a donné dépasse toujours infiniment ce que je peux lui rendre. La vertu de religion, cependant, elle ajuste mon comportement pour m'habiliter, dans toute la mesure du possible, à répondre à à ce qu'est Dieu, à ce que je lui dois. On peut dire dans cette perspective que la vertu de religion consiste à reconnaître librement, à respecter la souveraineté de Dieu, à reconnaître le pouvoir qu'il exerce, qu'il est en droit d'exercer sur les créatures, son domaine, en donnant au mot domaine le sens ancien du terme. Donc, reconnaître librement la souveraineté, le domaine, le pouvoir que Dieu est en droit d'exercer à l'égard des créatures. C'est le propre de la vertu de religion. L'homme est religieux du fait même qu'il reconnaît librement la dépendance qui est la sienne à l'égard de Dieu. Bien sûr, quand cet homme est chrétien, il ne perd rien de la vertu de religion. Au contraire, dans la mesure où un lien plus intime, plus fort, plus doux le rattache au Dieu chrétien, il se sent attiré à honorer Dieu davantage et à le servir encore mieux. Donc, la vertu de religion, comme toutes les autres vertus morales, n'est pas supprimée, mais au contraire, elle est assumée et transformée, surélevée dans le régime de la foi. Mais, et ça, je crois que il faut bien comprendre, parce que c'est décisif, la différence entre vie de foi et vie religieuse dans ce cadre-là. Hein. En vertu de la foi, j'adhère immédiatement à Dieu qui me parle, qui me fait ses promesses. En vertu de la vertu de religion, j'ajuste mon comportement à ce qu'est Dieu et ce que je lui dois. Je reconnais dans ce que je suis, dans ce que je fais, le pouvoir qu'il est en droit d'exercer sur moi. Cette vertu de religion, elle peut être assumée par la foi, mais elle est accessible à la raison naturelle et elle est vécue hors de la sphère de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui peut me pousser à honorer Dieu? Tout d'abord, j'honore Dieu en raison je l'ai dit, du pouvoir, du domaine qu'il exerce sur la créature. C'est reconnaître Dieu comme principe de l'être, de la vie, comme cause non causée de toute créature. Toute créature dépend de Dieu. Toute créature lui est radicalement et intégralement soumise. Mais la créature intelligente et libre, qu'est l'homme, non seulement est soumise à Dieu, mais elle est appelée à lui rendre hommage, c'est-à-dire à faire de cette soumission que elle partage la créature rationnelle, l'homme, avec toute autre créature, à faire de cette soumission un hommage réfléchi et volontaire. L'homme vit cette dépendance qui l'unit à Dieu de façon réfléchie et volontaire. Et c'est ce qui le distingue des autres créatures qui sont soumises à Dieu de manière nécessaire, qu'elles le veuillent ou pas. Donc, au principe de la vertu de religion, il y a une connaissance qui est déjà présente dans l'esprit de l'homme du fait de sa seule raison. Et en vertu de sa raison, qui reconnaît en Dieu le principe de son être, l'être humain reconnaît la dépendance qui le lie à une puissance invisible, de laquelle l'être humain attend d'être protégé ou redoute, d'être l'objet d'un comportement négatif, de sa colère. Donc, dans le cadre religieux, l'homme reconnaît la dépendance à l'égard d'un être qui exerce sur lui une influence où il en va de sa vie ou de son malheur, voire de sa mort. Selon le positivisme, cette philosophie qui a régné au XIXe siècle, qui a comme fondateur le philosophe Auguste Comte, la religion, c'est une étape de l'évolution de l'homme. Le genre humain s'est lentement dégagé de l'animalité, et ce faisant, il s'est progressivement émancipé de la crainte ou de l'intérêt à l'égard d'un monde extérieur perçu comme toujours menaçant. Et dans la perspective évolutionniste d'Auguste Comte, l'homme, dans son rapport avec son milieu, passe du fétichisme au polythéisme, du monothéisme à la métaphysique, puis enfin à la science. C'est-à-dire que progressivement, la cause du monde extérieur dans lequel il vit, il la conçoit de façon de plus en plus épurée et spirituelle. Mais dans cette perspective, dit Dunst dans une formule frappante, Dieu n'est pas et le progrès consiste à s'en passer. Hein? L'homme d'abord attache sa croyance à son fétiche, puis à un panthéon divin, puis il reconnaît un principe unique à l'origine de l'être, c'est le monothéisme, et puis il se fait de ce principe unique une idée de plus en plus épurée et spirituelle, c'est la métaphysique, et enfin la métaphysique doit être remplacée par la science, où l'homme est définitivement émancipé de cette dépendance qui le lie à son milieu pour maîtriser le milieu naturel dans lequel il vit. Or, Dunst pointe le fait que, à la racine de l'option entre une perspective positiviste ou une perspective, disons, spiritualiste de la religion, eh bien, la question de l'existence même de Dieu. Si on reconnaît que Dieu existe, s'il n'est pas conçu comme une invention de l'homme, si on reconnaît en lui le principe de l'homme et non pas en l'homme le principe de Dieu, si on estime au regard de la raison que l'homme n'est pas sorti sans raison et sans cause d'un être qui lui serait inférieur, c'est la difficulté que pose le matérialisme hein, qui fait sortir le plus du moins, alors il est raisonnable que dès le commencement, l'être humain connaisse et honore son créateur et son maître divin, qu'il appellera Dieu. Dans la perspective d'Hulst, on pourra en discuter, c'est pas là-dessus que je voudrais m'arrêter, même si c'est pas sans intérêt, les diverses formes d'idolâtrie sont plutôt à concevoir comme une décadence, une corruption d'une attitude originelle de l'homme qui est très noble. Donc il s'inscrit en faux par rapport à une conception d'évolution où l'homme se dégagerait laborieusement et de façon difficilement explicable d'une animalité originelle. Et la conception d'Hulst qu'il croit confirmée par la Bible, à l'origine, l'homme n'est sans doute pas l'homme des cultures civilisées, mais il n'est pas non plus le sauvage que les représentations communes de la préhistoire nous imposent. Et si l'homme est un être naturellement religieux, cette religion originelle devait être très noble et les différentes formes de vie religieuse que sont le fétichisme, les diverses formes d'idolâtrie, doivent plutôt être conçues comme des formes décadentes d'un état originel qui est lui très, très noble et qui répond aux exigences de la raison. Et cette exigence très, très noble qui fait de l'homme un être religieux, elle demeure au fond de tout comportement religieux, quels que soient les avatars que ce comportement religieux a pu connaître tout au long de l'histoire du genre humain. La religion est, quelle que soit sa forme, d'abord La reconnaissance par l'homme qu'il dépend d'une puissance invisible qui est maîtresse des choses et qu'il convient d'obéir à cette puissance. Et Dulst dit que, au regard de la philosophie qui est la sienne, le progrès ne consiste pas à s'émanciper de cette fiction que serait Dieu, mais qu'il n'y a de vrai progrès qu'à mieux connaître et mieux servir ce Dieu que vénère l'homme religieux. L'homme donc homme religieux en ce qu'il reconnaît Dieu comme son auteur et son maître, et si Dieu est réellement son créateur, s'il lui donne d'exister et de vivre, alors la domination que un tel être créateur exerce à l'égard de l'homme doit être universelle, transcendante, compénétrante, dit Dulst. Elle doit atteindre jusqu'aux racines de l'être humain. C'est vraiment une domination qui n'est pas extérieure, qui n'est pas partielle, mais qui est vraiment qui enveloppe tout l'homme depuis la racine de son être. Alors que j'ai déjà dit, ce pouvoir du Créateur sur la créature, qui est un pouvoir universel et contraignant à l'égard des êtres sans raison, qui sont soumis au régime de la nécessité naturelle, le même pouvoir sera dit impératif pour les êtres rationnels, c'est-à-dire qu'il s'exercera par le moyen du commandement, de l'impératif. C'est le régime non plus de la nécessité naturelle, mais de la moralité, du commandement moral, de la voie de la conscience. Dieu veut exercer son pouvoir sur la créature passionnelle en suscitant chez elle une libre adhésion, je l'ai déjà dit, un libre hommage à l'égard de ce maître qu'est Dieu. Lorsque on s'interroge sur les causes de cet hommage réfléchi et libre qu'est l'attitude religieuse chez l'homme à l'égard du principe de son être, son créateur, il s'agit d'abord de reconnaître qu'étant son créateur, il exerce sur l'être humain une domination qui est universelle, mais si on rend hommage à Dieu, c'est parce qu'on reconnaît le pouvoir qu'il exerce sur tout être, en particulier sur l'être humain, mais plus foncièrement encore, si on rend hommage à Dieu, c'est parce que Dieu est Dieu, c'est parce qu'il est ce qu'il est, c'est devant la perfection de son être. L'homme religieux reconnaît la souveraineté, le domaine de Dieu dans son origine, il lui rend hommage là où ce domaine, ce pouvoir de Dieu prend naissance. Écrit Dulst de façon très belle, c'est-à-dire sur les mystérieux confins où l'être créé se détache sans l'appauvrir de l'être immobile du Créateur, c'est-à-dire que l'être humain se conçoit lui-même comme un être en dépendance, comme un être créé, et il est amené à s'interroger sur l'être même de ce principe, de ce Créateur, et s'ouvrant, ouvrant son esprit à la perfection de l'être du Créateur, il trouve dans la considération même de ce que Dieu est un motif supplémentaire et plus fort encore de lui rendre hommage. Dieu est adoré comme le créateur, il est adoré pour le domaine qu'il exerce sur les créatures, c'était la première étape du raisonnement, mais il est adoré plus foncièrement encore, tout simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire la plénitude de l'être, c'est-à-dire selon le nom que l'Exode lui donne et qui est repris par la tradition juive et chrétienne, Dieu est adoré comme étant celui qui est. Alors que dans certaines philosophies, Dieu est un idéal forgé par l'homme, un idéal projeté hors de lui, alors que la source de l'idéal se trouverait dans l'esprit même de l'homme. L'homme, confronté à la réalité, se montre toujours insatisfait par les limites des réalités dont il a l'expérience, et il développe en lui une idée de plus en plus sublime qui est son Dieu, mais qui est une projection dans la réalité de ce que son esprit conçoit comme idéal. Et cela, la philosophie qui donc présente Dieu comme un idéal forgé par l'homme, parle donc de ce constat que l'homme est habité par une certaine notion de l'absolu, disons, et que cet absolu ne se réalise dans aucune créature, qui ne fait que participer de l'idéal présente dans l'esprit humain. Mais Dunst renverse le raisonnement et dit que, alors que selon cette philosophie, Dieu étant l'idéal n'existe pas parce que dans la réalité immédiatement expérimentée, on ne rencontre pas l'idéal absolu, mais on rencontre toujours des êtres limités. En fait, c'est parce que justement Dieu est l'idéal absolu qu'il est réel. Il existe parce qu'il est parfait, alors qu'on voudrait que son existence l'empêche d'être parfait. Non, au fondement de l'attitude religieuse, il y a toujours cette perception qui est, dans une perspective thomiste, une perception rationnelle de l'existence même de Dieu. Dieu existe. Mais alors, comment atteindre humainement ce qu'il est? J'affirme qu'il existe, j'affirme son existence, mais qu'est-ce que je peux connaître de sa nature, de son essence, de son être dans sa sublime simplicité qui récapitule en elle toute perfection? Je cite Dunst, qui est un très bon orateur, hein, dans sa très belle langue, qui pourra le suivre, ce Dieu, dans ses profondeurs de lumière, où il semble qu'il se retire, échappant à nos poursuites, lorsque, oubliant ma qualité de créature, j'entreprends de le contempler en lui-même. Hein, l'homme est habité par ce désir de contempler l'être divin, qui est la source de son être, et il ne peut s'empêcher de s'y essayer, alors que cette tentative semble d'emblée condamnée à l'échec, parce que l'infini, la source même de l'être, échappe aux prises d'un esprit créé. Et Hulst conclut sa première conférence par la belle image du buisson ardent, pour dire la sublimité de cet être que l'homme peut entrevoir. Toute vie créée ressemble à Dieu en tant qu'elle est comme une flamme. Elle ressemble à ce buisson ardent qui brûle, mais la flamme de la créature se nourrit d'une substance périssable. La flamme dévore cette substance et périt avec elle, alors que la vie de Dieu, la flamme de Dieu, se nourrit d'elle-même et ne se détruit pas. Lorsque Dieu, effectivement, dans l'Exode, au chapitre 3, verset 14, livre son nom qui est celui qui est, cette révélation est accompagnée de la vision du buisson ardent, qui est une magnifique image pour dire la sublimité de la cause incausée, du principe de l'être. Lorsque on a rendu à Dieu hommage en reconnaissant son domaine, son pouvoir sur les créatures, en reconnaissant ce qu'il est, jusqu'où vont les exigences du devoir de religion? Eh bien, si on a une notion juste de Dieu, Alors, ces exigences sont universelles. Elles enveloppent tout l'être, en étendue et en profondeur. Si Dieu est conçu comme il doit l'être, alors on comprend que tout, absolument tout, doivent lui être soumis. Ainsi, mon âme rend hommage à Dieu, honore Dieu comme il mérite de l'être, en vertu de la religion, en l'adorant. L'acte de la vertu de religion, c'est l'adoration. Cette adoration, c'est d'abord le fait de l'esprit humain, hein, qui s'est élevé jusqu'à cette conception sublime, hein, de Dieu qui est l'être même. Mais cette adoration, elle doit se prolonger dans le corps lui-même. L'âme qui adore plie le corps humain à cette posture qui exprime et qui traduit l'adoration. La religion est donc le fait de l'esprit, mais elle doit être aussi celui du corps, hein. Reconnaître le pouvoir que Dieu est en droit d'exercer sur moi, c'est reconnaître en mon esprit sa grandeur, mais c'est traduire, exprimer cette grandeur jusque dans le monde visible des corps. Le corps orienté vers le culte divin, on le comprend bien, facilite à l'âme les actes spirituels. Mais, et c'est une très belle remarque de Dulce à cette occasion, une religion où le corps n'a point de part devient bien vite une religion sans âme. Hein, et donc, l'homme est indissociablement âme et corps, et reconnaissant qui est Dieu, il éprouve le besoin de l'exprimer jusque dans son corps, et s'il ne le fait pas, très vite, la religion qui est la sienne perd son âme. Cette adoration qui implique l'âme et le corps, par ailleurs, elle ne peut pas être le fait du seul individu. La religion est une pratique sociale. Hein, elle doit s'exprimer à l'extérieur. Elle doit être aussi une réalité sociale et donc familiale et civile. Familiale. Et chaque membre de la famille lui apporte sa note propre. Il y a une remarque que je trouve très, très, très belle et très suggestive de Dulce, hein, disant que le père, la mère, l'enfant apportent chacun leur note propre au culte divin et ainsi enrichissent la louange qu'on peut apporter à Dieu. Et puis, la religion doit être aussi le fait non seulement de ce groupe sociale qui est la famille, mais ce doit être la religion d'un peuple, ce qu'on appelle la religion civile dans un contexte où la religion est une religion d'État. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'était encore le cas finalement, enfin, à l'époque de Monseigneur Dulce, on était encore en régime concordataire, mais on comprend bien que une religion ne peut pas se restreindre à la sphère familiale, mais que, elle doit être celle d'un peuple croyant. Étant la religion d'un peuple, elle n'est cependant pas confiscable par une nation donnée. Et c'est aussi là quelques remarques qui sont très pertinentes de Monseigneur Dulst, qui ont un relief particulier quand on les situe dans le contexte historique qui était le sien, qui était la fin du 19e, c'était entre la guerre de 70 et la Première Guerre mondiale, hein, où il se dresse contre une religion qui devient un instrument politique, une religion qui devient nationale, qui ne cimente plus la paix, mais qui alors nourrit la guerre. Toute religion qui n'appartient qu'à un seul peuple est un reste de barbarie. Mais je crois que ce qu'il dit là revêt aujourd'hui une actualité dont on peut débattre. Hein. La religion, si elle ne devrait pas être l'otage du nationalisme, cependant, elle est le ressort du patriotisme. Alors ici, Dulst oppose nationalisme et patriotisme. C'est une opposition qu'on retrouvera souvent dans l'enseignement des papes tout au long du XXe siècle. Hein. Dieu est inspirateur de ces grandes vertus sociales que sont le patriotisme, la justice et la solidarité active. Pour ceux, celles qui souffrent, ce que Dulst appelle dans la langue qui est la sienne, la pitié. En tout cas, la religion dans la sphère de toute la société inspire au nom de Dieu le respect du faible, aux opprimés l'espérance. Alors que l'athéisme, c'est la position de Dulce, on pourrait là aussi en débattre, conduit selon lui nécessairement à la servitude de la force et de l'argent. Vivre sans culte est une chimère, mais il faut choisir son maître et son Dieu. Une des grandes convictions de ce libéral catholique qu'est Dulce, c'est que la religion est principe d'émancipation. Alors que beaucoup de ses contemporains le présentent comme principe d'oppression, il veut montrer que la religion libère l'homme de tout maître qui n'est pas Dieu. Et elle est donc le principe d'une liberté, une liberté réglée par la morale, mais d'une liberté authentique pour l'homme. La deuxième conférence de Monseigneur Dulce, je serai plus bref la concernant, aborde cet acte qui résume en lui et qui exprime parfaitement l'adoration de l'homme religieux, à savoir le sacrifice. Et je crois qu'il est particulièrement intéressant de réfléchir à cet acte du sacrifice qui, aujourd'hui, spontanément, est associé dans notre esprit à la violence. On pense à l'œuvre considérable et très intéressante, hein, de l'anthropologue René Girard, hein, qui propose une interprétation non sacrificielle du christianisme, hein, et qui pense le sacré hors le christianisme comme lié au fait du sacrifice d'un bouc émissaire sur lequel se reporte la violence d'une société, ce sacrifice d'un bouc émissaire cimentant l'unité du groupe. Dans une telle conception, sacré, lié au sacrifice, est nécessairement lié à la violence. Dulce part du même constat qui est celui de René Girard, l'anthropologue. D'abord, un constat d'un fait en soi énigmatique, pour ne pas dire mystérieux, qui est celui de l'omniprésence du sacrifice dans les religions, dans les civilisations, les cultures humaines. Le sacrifice est un fait mystérieux, interrogé par un anthropologue comme René Girard, expliqué chez lui par le mimétisme du désir. Hein, en fait, on désire le désir de l'autre et on devient rival de l'autre, et donc la violence ne fait que s'accroître et elle ne peut être évacuée qu'au prix du sacrifice d'un bouc émissaire. Donc le sacrifice est une façon violente d'évacuer la violence, mais en évacuant la violence par la violence, on ne fait que la croître. Hein, c'est le raisonnement de René Girard. Mais il part de ce constat d'un fait énigmatique mais omniprésent dans l'humanité qui est celui du sacrifice. Un sacrifice qui finalement est dépassé par le Christ. Et René Girard proposera une interprétation non sacrificielle, encore une fois, du christianisme. C'est pas du tout la perspective qui s'ouvre pour un disciple de saint Thomas qui fait du sacrifice l'acte principal de la vie d'adoration, de la vie de l'homme religieux. Le sacrifice, observons-le tel qu'il se présente, dans toute sa diversité, le sacrifice peut être non sanglant ou sanglant, il peut aller jusqu'à être sacrifice d'êtres humains, mais quelles que soient ses formes, pacifiques ou sanglantes, dans le sacrifice, l'humanité se montre en quête d'une relation avec ce qui la dépasse et d'une communion avec l'invisible. Ça, je crois que c'est effectivement, ça relève d'une phénoménologie du sacrifice, hein. L'humain, du fait même qu'il offre un sacrifice, confesse, avoue, son désir d'entrer en relation avec un être qui le dépasse. Et le sacrifice est comme un message porté par un messager qui est spiritualisé en étant immolé. Il s'agit plutôt de transformer que de détruire, si on comprend le rite sacrificiel de cette manière, et spiritualiser ainsi par l'immolation le messager qui est la victime du sacrifice est rendu capable de pénétrer l'impénétrable vers qui tend le désir de l'homme. La victime est comme jetée en avant de l'autre côté du voile, et puis le sacrificateur se tient anxieux sur la frontière de l'invisible et de l'infini, comme pour attendre la réponse qui va lui venir d'une religion, d'une région, pardon, qu'il ne peut pas explorer autrement. C'est une description et une compréhension du sacrifice qui, quoi, qui bon, est bien loin de celle que proposerait René Girard. Hein, il s'agit de nouer un lien avec un être transcendant, alors que dans la pensée de René Girard, c'est la victime du sacrifice elle-même qui est divinisée, en fait. Et d'où l'origine de la divinité. Là, dans cette perspective, encore une fois, le Dieu est une fiction, une création de l'esprit humain. Mais quelle que soit l'interprétation qu'on donne du sacrifice, et là aussi je pense que c'est une notation très intéressante, le sacrifice est une réalité proprement humaine. La peur n'engendre pas le sacrifice chez l'animal. Et si de fait on a une conception de l'homme comme émergeant laborieusement de l'animalité vivant la religion du fait de la crainte ou d'un
Fait
certain
de où?
intérêt,
Ça fait d'un bout d'ado?
la peur n'engendre pas le sacrifice chez l'animal. La peur ne fait qu'engendrer chez lui la fuite ou la résistance. Le sacrifice, donc une réalité à la fois universelle en humanité et proprement humaine, et quoi qu'il en soit encore de son interprétation et de l'évaluation du fait, le signe d'une alliance entre Dieu et l'homme. Et l'histoire montre que le sacrifice est toujours le fait d'une collectivité. Il a laissé des traces dans l'histoire que comme un acte collectif. Donc une alliance non seulement entre Dieu et l'humain, mais entre Dieu et les sociétés humaines. D'où la réalité du sacerdoce. Le prêtre est celui auquel on délègue dans une société donnée la fonction d'offrir le sacrifice, que ce soit dans la sphère de la famille où le père de famille est le prêtre qui offre le sacrifice, ou le sacerdoce, un sacerdoce dans la forme publique qu'il peut prendre dans la cité. Le sacrifice, de fait, s'adapte à toutes les formes de civilisation. Il subit toutes les modifications que l'ignorance ou la superstition impose à ce que Duste considère comme des vérités originelles et traditionnelles qui habitent le fond du cœur humain. Comment expliquer le sacrifice après l'avoir décrit de cette manière? Il y a une explication naturaliste du fait sacrificiel. L'homme prétend à la cause de faits inexpliqués qu'il pense être Dieu des désirs et des besoins qui ne sont que le grossissement des siens, eh bien, il essaie de les satisfaire. Et un Dieu censé protecteur de la communauté se montre sensible aux hommages qu'on lui rend et qu'on lui rend en pensant que il attend de nous ce que l'homme lui-même peut attendre de ses semblables. Dans les crises, le recours au sacrifice humain est observé pour obtenir des faveurs extraordinaires. On pense au sacrifice d'Iphigénie, au sacrifice de la fille de Jephthé dans la Bible. Et puis, dans cette conception naturaliste du sacrifice, où donc Dieu est conçu comme la cause de faits inexpliqués qu'on essaie de satisfaire de manière anthropomorphique, Eh bien, dans une conception évolutionniste, on va dire que comme la notion de Dieu se spiritualise, de la même manière, le sacrifice va se spiritualiser. On va renoncer dans un premier temps au sacrifice humain. Et puis, le judaïsme, puis le christianisme vont supprimer les sacrifices matériels par la seule oblation mystique. C'est vrai que dans sa dernière phase, le judaïsme, ça, Luce ne le dit pas, mais développe une idée du sacrifice spirituel, dont parle par exemple Paul. Et après la disparition du temple, il n'y a plus de sacrifice matériel dans le judaïsme. Le christianisme lui-même supprime un sacrifice matériel pour une seule oblation intérieure. Et puis finalement, toute compréhension sacrificielle du christianisme est évacuée, comme dans le protestantisme libéral. Finalement, il ne demeure du christianisme qu'une doctrine d'amour et de fraternité où le sacrifice est absent. Au contraire, pour Dulst, le sacrifice, dans son type originel, est une institution, puisqu'il s'agit d'une réalité sociale, tout à fait grandiose, qui correspond à une idée sublime. Il répond à une exigence profonde de la raison, comme la religion est foncièrement, avant même toute révélation, le fait de la raison. Et il y a une explication rationnelle possible du sacrifice. Le sacrifice est foncièrement, explique Dulst, l'hommage rendu à Dieu d'un renoncement volontaire. Si l'homme est laissé à lui-même, alors la jouissance illimitée qui serait la sienne aurait pour effet de lui faire oublier Dieu. La morale elle-même ne commanderait que des renoncements nécessaires. Mais le sacrifice va plus loin, il demande l'abandon d'une jouissance permise. Et au fond, me disais-je, Dulst ne le dit pas lui-même, comprendre comme cela l'interdit de Genèse 2, hein, où Dieu offre à l'homme tous les fruits du jardin, sauf le fruit d'un arbre particulier. Hein, et il introduit ainsi le sacrifice dans l'existence de l'homme comme un rappel ou une invitation faite à l'homme de renoncer volontairement à un des fruits de la création pour rendre hommage à Dieu. Parfois, on demande, dit Dulst, comment croire à l'au-delà? Eh bien, la preuve de l'au-delà est le sacrifice par lequel l'homme montre qu'il méprise ce monde-ci. Et de façon assez touchante, Dulst partage l'expérience qu'il a faite de la rencontre de grands intellectuels de son temps. Il s'agit ici de Taine, un des grands représentants de la philosophie positiviste à la fin du XIXe siècle. On peut penser aussi à Littré, dans sa rencontre avec l'abbé Duvelin, qui était un ami de l'abbé Dulst. Donc ces grands positivistes qui, à la fin de leur vie, se sont montrés très proches d'une attitude religieuse, voire chrétienne. Mais la rencontre de Taine et de Monseigneur Dulst a été l'expérience d'une déception. Et Dulst dit, quelques années après la mort de Taine, la chose suivante. Ces fins chercheurs, hein, Taine était un des grands enfin, je ne sais plus quels sont les trois grands maîtres de. Enfin, en tout cas, on parlait de Taine et Renan, hein, comme les deux grands maîtres à penser de la fin du XIXe siècle, à une époque positiviste et vidée de toute aspiration religieuse. C'était l'époque du jeune Claudel, qui s'en plaint beaucoup, et d'autres de la même génération. Eh bien, parlant de ces maîtres à penser, Dulst dit, ces fins chercheurs, habitués à explorer le monde visible, lorsqu'ils sont arrivés aux confins, c'est-à-dire lorsque l'exploration du monde visible les conduit à poser la question de l'invisible, ils ont voulu, pour franchir les limites du visible, prendre encore pour guide la science qui discute et qui conteste. Or ça n'est pas ce qui va permettre à l'humain de franchir la limite du visible et à affirmer l'invisible et à l'habiter. Ce n'est pas ainsi, c'est-à-dire en vertu d'une science qui discute et conteste qu'on atteint l'invisible. Commencez par donner des gages à l'invisible pour y pénétrer. Fiez-vous à l'ami qui se cache. Faites comme le nageur qui se livre à l'abîme, d'autant plus sûrement porté sur sa mouvante surface qu'il craint moins de se plonger dans ses obscures profondeurs. Pour aller de l'avant, pour que l'esprit humain puisse pénétrer dans le royaume de l'invisible, il faut qu'il pose un acte de confiance. Une des incitations pour lui à cet acte de confiance, ça peut être la réalité du sacrifice tel qu'il l'expérimente, omniprésent, dans le monde des humains. Le véritable esprit de sacrifice, c'est la foi en action, c'est l'hommage rendu à la réalité de Dieu, à ses droits, à sa providence, à sa grandeur, à son amour, par l'abandon volontaire qu'on lui fait d'un bien qu'on aurait pu garder. C'est la définition que Dulst donne du sacrifice et qui en fait le cœur de la vie religieuse la plus authentique, l'abandon volontaire d'un bien qu'on aurait pu garder. Qu'importe que Dieu n'ait pas besoin de ce bien, il ne s'agit pas d'enrichir Dieu, il s'agit de le reconnaître. Et la reconnaissance de Dieu comme Dieu, c'est bien le fait de la religion. De le reconnaître à travers l'anéantissement de soi et devant des réalités sublimes, et finalement devant l'être sublime de Dieu, la seule attitude proportionnée semble être l'anéantissement que symbolise le sacrifice de l'Holocauste, qui est la consommation intégrale de la victime, l'anéantissement seul dit assez devant la grandeur de Dieu. Et je parlais de Thérèse, de l'enfant Jésus, qui dans ces mêmes années prononce son acte d'offrande en victime d'holocauste à l'amour miséricordieux. Donc elle fait de cet acte d'offrande totale d'elle-même à un Dieu compris comme miséricordieux, un acte profondément religieux où s'épanouit la vocation religieuse qui est la sienne. Sacrifice d'Holocauste, mais aussi sacrifice d'action de grâce, sacrifice de paix. Dans la Bible, c'est l'offrande des fruits de la récolte qui exprime cette attitude religieuse de profonde gratitude pour celui qui est à l'origine de toute chose. Sacrifice de communion, le sacrifice est souvent accompagné d'un repas sacrificiel qui dit bien ce désir de s'unir à la réalité invisible, divine. Où celui qui a offert le sacrifice semble s'assimiler son immolation même et pénétrer dans le pays de l'invisible, écrit Dulce, il s'assimile son offrande, et il pénètre ainsi là où l'offrande présentée a pu pénétrer. Sacrifice aussi, donc non seulement d'holocauste, de gratitude, sacrifice de communion, mais aussi sacrifice d'expiation, de réconciliation, l'homme reconnaissant son péché, symbolise ainsi la nécessité d'une réparation qu'il exprime par l'immolation d'une victime substituée à lui-même. Donc, pour finir, Dulst, dit la diversité des formes que peut prendre cette réalité centrale pour lui de la vie religieuse, qu'est le sacrifice. En conclusion, je dirais que ce sur quoi je veux insister avant que l'on examine, ce sera la dernière séance, toutes les difficultés de cohabitation entre les différentes religions qui sont opposées entre elles en vertu, des énoncés divers qui, sont l'objet de leurs croyances. Je voulais insister, et ça me semble vraiment important, et peut-être pas assez, enfin, à mon sens, pas assez pris en compte par Roger Privet, mais là, on entre en discussion avec lui, c'est que la religion est croyance, certes, mais qu'elle est aussi qualité et force d'âme. Qualité et force d'âme qui peut être présente au cœur de toute expérience religieuse, même hors des sphères du christianisme. Elle s'actualise dans la recherche de la vérité et du bien, dans la gratitude profonde à l'égard de la vie et de son auteur, gratitude qui peut aller jusqu'au sacrifice et qui va jusqu'au sacrifice pour pouvoir être pleinement elle-même. Dans un monde qui est gagné par la violence, il me semble que, ainsi comprise, la religion, la vraie religion, qui peut être le fait de tout homme raisonnable, est écoute de la voix intérieure de la conscience qui peut aller jusqu'au sacrifice non violent du pardon et de la réconciliation. Et bien sûr, au regard d'un chrétien, cette vraie religion trouve sa forme plénière, mais non pas exclusive. La vraie religion subsiste tant, hein, dit le Concile Vatican II, elle trouve sa forme plénière, mais non exclusive, dans la religion de la croix. Voilà ce que je voulais. En fait, vous voyez, si vous avez eu le temps de lire le texte d'Hust, j'ai repris son contenu en synthétisant un peu, et puis en allant à ce qui me semblait être le plus important.
Merci Frère Gilles, effectivement, d'avoir synthétisé ce gros document que vous aviez transmis avant cette séance et de le rendre vraiment beaucoup plus digeste. Et donc, maintenant, on a un temps de questions pour que chacun puisse faire des remarques, déposer des questions à Frère Gilles, demander des éclaircissements. Et n'hésitez pas. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes ici qui veulent intervenir?
Une question, hein. Parce que, par exemple, là, dans ce que vous dites, on a l'impression que voilà, vivre vraiment la religion, ça implique une authenticité dans sa relation avec Dieu et en fait une recherche actuelle aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je recherche la vérité, aujourd'hui, je fais un sacrifice parce que je veux être en relation avec lui et donc en relation avec l'ami, etc. Et donc, ça. Enfin, voilà. Donc, il y a ce premier aspect qui semble aller vers, dans ce cas-là, pour chaque religion, le désir de la vivre presque de façon fermée. Enfin, voilà. Et du coup, peut-être amener à des conflits entre religions. Donc, ça, c'est un premier aspect. Mais en fait, peut-être qu'avec le christianisme, vivre profondément enfin, de façon authentique la religion chrétienne, et donc avec une vraie relation avec le Christ, par le sacrifice, par la recherche de vérité, etc., ça conduit peut-être au contraire à une relation saine, enfin, et en tout cas non violente avec les autres religions. Et juste pour éclairer ça, enfin pas pour éclairer ça, mais pour peut-être essayer de mieux le dire, c'est juste cette parole du Christ, c'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Est-ce que ça peut être à la fois un élément pour comprendre comment peut être cette relation entre les religions et à la fois et aussi profondément chrétienne et donc profondément avec lui?
Oui, je souscris à ce que vous dites, mais je serai moins exclusif. Ce que vous dites, on le trouve aussi dans l'ouvrage de Monsieur Puyvet, hein, c'est-à-dire que finalement toute religion prétend un certain exclusivisme, hein, en ce que il s'agit de se donner entièrement à Dieu qui est tout pour le croyant. Et puis mon Dieu n'est pas le Dieu du prochain, sauf si mon Dieu est Dieu d'amour. Il se trouve que dans le christianisme, Dieu est Dieu d'amour, et donc il conduit à un rapport qui est un rapport de pacifié avec les autres, y compris ceux qui croient différemment que moi. Mais je serai moins exclusif en ce sens que je pense et je crois là reprendre une conviction fondamentale du thomisme, que la religion n'a pas affaire de raison et que c'est du fait même de sa nature et de sa raison que l'homme peut se reconnaître créé et que il peut se reconnaissant créé et reconnaissant ses semblables en humanité créée comme il est créé, du fait même du lien qui l'unit à Dieu, vivre une fraternité universelle. Et c'est, pour moi, c'est la vraie religion. Elle n'est pas spécifiquement chrétienne. Le christianisme est autre chose qu'une religion. Le christianisme, il assume cette attitude fondamentale qui peut être partagée par d'autres religions qui, me semble, enfin, l'affirmation d'une fraternité universelle, elle n'est pas propre au christianisme. La non-violence, on le sait qu'elle a été, elle a trouvé sa formulation la plus complète et son engagement le plus généreux au XXe siècle hors du christianisme chez un Gandhi, hein. Et Gandhi parlait d'une religion de la non-violence. Alors il était inspiré par le sermon sur la montagne, mais il n'était pas chrétien. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est voulu hindouiste. Il n'avait pas une conception de Dieu qui était un Dieu personnel et transcendant, mais il avait plutôt une conception du Dieu comme une réalité totale. Pour lui, la vraie religion était religion non violente. Hein. Donc je ne pense pas que la non-violence soit cette vraie religion soit le seul apanage du christianisme. Mais ce que je crois, comme le dit le Concile Vatican II, c'est que cette vraie religion, elle est assumée, bien sûr, par le Christ. Elle s'épanouit dans le Christ, elle subsiste dans, dit le Concile, le Christ et dans son Église, dans l'Église du Christ. Donc, pour moi, elle trouve même sa forme la plus achevée. Mais le christianisme est autre chose que cette religion. Le christianisme, il est l'affirmation d'un événement qui est celui de la mort et de la résurrection du Christ, dans lequel Dieu se manifeste, se révèle à moi comme Père, Fils et Esprit Saint. Et ça, c'est une réalité surnaturelle, c'est pas seulement une vérité religieuse. Je crois que le christianisme est d'abord le fait de raconter cette histoire advenue à l'humanité et qui transforme la condition humaine. Là, on est, si on veut, on reste dans la sphère du religieux, mais on dit plus que cette religion, cette vraie religion naturelle, je crois, qui, en principe, même si dans les faits c'est beaucoup plus compliqué, mais en principe est le bien commun de notre humanité. Alors que les religions sont de fait facteurs de violence parce qu'elles sont accaparées par tel ou tel groupe, c'est ce que dit bien Dulst, en soi, en elle-même, la vérité de la religion devrait être un principe de fraternité universelle et de non-violence. J'assimilerais même presque la religion à la non-violence, comme le fait Gandhi, même si elle n'est pas seulement non-violence, elle est d'abord gratitude à l'égard du don de la vie, hein, c'est plus que la seule non-violence. Mais la non-violence est l'expression la plus forte, et Gandhi la pense comme sacrifice. Pour lui, c'est-à-dire, pour lui, le sacrifice de la vraie religion, c'est le sacrifice de la non-violence, c'est-à-dire, et c'est très beau, hein, ce sacrifice spirituel par lequel, en vertu de la seule force de la vérité, je vais convertir l'âme de mon agresseur. Donc on a une vision quand même très forte et très noble du religieux, hors de la sphère chrétienne, influencée par le christianisme sans doute, mais hors de la sphère chrétienne. Oui, donc pour toutes ces raisons, pour ces raisons que je vous dis, je n'aurais pas de conception exclusiviste du fait religieux, et je crois que c'est ce à quoi nous invite, vers quoi nous oriente le Concile Vatican II quand il ne dit pas le christianisme est la vraie religion, mais quand il dit la vraie religion subsiste dans le christianisme. Hein, c'est autre chose encore.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui, bien sûr,
Oui.
oui.
Quand vous avez parlé des philosophies qui présentent Dieu comme un idéal forgé par l'homme, puis vous avez dit, le Monseigneur Dulst, il renverse le raisonnement, là. Le
Oui.
raisonnement qui dit Dieu étant l'idéal n'existe pas. Si j'ai bien compris, lui, il dit Dieu étant l'idéal existe. Ou,
Oui, c'est
mais
ça.
là, vous avez dit parce qu'il est parfait, il est réel.
Oui.
Je comprends un peu la démarche là, mais je me demande si La difficulté que j'ai, c'est que ça ressemble un peu à l'argument ontologique, là. S'il y
Oui.
avait, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose?
Moi, je pense, enfin, vous avez raison de penser à l'argument ontologique, mais quand on regarde saint Thomas, alors pourquoi pas l'argument ontologique, hein? C'est-à-dire, on peut défendre l'argument ontologique,
Ben, je
l'argument.
veux pas le défendre. Moi, je pense que je suis d'accord avec Saint Thomas qu'il y a des lacunes, là.
Oui,
C'est pas
je
parce que
comprends.
dans notre pensée, on n'a pas la possibilité. On imagine quelque chose de plus parfait que dans la réalité des choses, ça correspond, là.
Voilà.
Il semble que je suis.
Louis, simplement pour ceux qui n'auraient pas lu la deuxième question, la somme de théologie, parce que c'est ce qui est derrière, hein, vous savez, c'est ce qu'on trouve chez saint Anselme, l'affirmation suivante, hein, il essaye de caractériser Dieu, hein, et il le caractérise finalement comme l'être tel que je ne peux rien concevoir de plus grand que lui. Et étant l'être tel que je ne peux rien concevoir de plus grand que lui, nécessairement il existe. Hein. Ça, c'est la démarche de saint Anselme. Moi, je la trouve très forte. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu, c'est encore ce que dira Descartes. Hein. C'est toute une lignée philosophique qui dit cette idée que j'ai en moi est tellement forte que ce n'est pas moi qui ai pu me la donner à moi-même. Hein. Et donc, l'idée d'infini que je porte en moi me conduit à affirmer l'existence de l'infini hors de moi. C'est un peu ça, la démarche. Mais effectivement, saint Thomas dit, ça ne va pas parce que c'est pas parce que je pense l'être tel que je ne peux rien concevoir de plus grand que lui. Et si il est l'être tel que je ne peux rien concevoir de plus grand que lui, alors effectivement, il existe. Mais il y a une sorte de pétition de principe, hein, c'est-à-dire s'il est l'être tel. Mais justement, la question, c'est de savoir s'il est. Donc, je n'ai pas démontré qu'il était en affirmant de lui qu'il était l'être. Voilà. Donc, ça, c'est le débat chez Thomas d'Aquin. Alors, effectivement, chez Dunst, je me suis fait la même remarque que vous en le lisant. Il dit, mais lui, il a des philosophes idéalistes dans le collimateur qui disent, en fait, l'homme est en recherche d'idéal, il ne le trouve pas autour de lui, et donc il se forge intérieurement une idée de Dieu. Et donc, comme le raisonnement de ces philosophes serait, comme l'idéal n'existe pas dans la réalité, Dieu n'existe pas. Et Dieu se renverse en disant, mais si Dieu est l'idéal, alors il existe nécessairement. Et oui, ça tient peut-être d'une démarche qui relèverait de l'argument ontologique. Moi, je trouve que ça a sa force quand même. Hein.
On peut prendre comme un argument rhétorique, mais pas comme une
Ah, moi,
démonstration
je pense que
stricte.
ça. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu la discussion de gens comme Karl Barth ou des théologiens comme. C'est-à-dire, sa pertinence quand ça reflète une expérience. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une affirmation théorique, mais c'est une certaine expérience de l'absolu. Et quand on fait l'expérience de l'absolu, cette expérience de l'absolu est telle qu'il serait inconvenant de dire qu'il n'existait pas. Quand vous faites l'expérience de l'absolu, vous ne vous posez plus la question de son existence. La question philosophique de son existence n'est plus pertinente. C'est une
Oui,
relecture de l'argument
mais
ontologique que moi je trouve assez intéressante.
une expérience, ça ne s'enseigne pas comme telle.
Ah, je ne sais pas.
Ben, on
C'est
peut la
une autre.
raconter, là, mais
Oui,
c'est.
mais raconte, le récit, ça fait partie de l'enseignement, de la transmission de la sagesse. Mais je suis moins purement thomiste que vous, Louis. Ça, c'est tout à fait évident.
Absolument.
L'important, c'est la vérité, là. C'est pas les étiquettes ou les appartenances.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Une question. Lire un peu en travers de texte une certaine controverse avec l'évolutionnisme. Donc, bon, alors c'est en sens que c'était un peu daté, le texte. Et donc, il ferraille, bon, bien sûr, contre les positivistes et autres, mais également, il axe tout son, bonne partie de son discours sur la création. Donc, en fait, conteste la vision qu'en ont
évolutionniste, et en particulier, il revient à une sorte d'idée qu'il y avait un paradis initial, un Éden initial, et que l'homme n'est c'est pas extrait comme ça, donc par évolution du niveau zéro et par une progression régulière. Donc, bon, ça n'en paraît pas totalement le discours basé sur la création, mais quand même, il y a une tension, je trouve. Donc,
Oui, alors moi je trouve que c'est intéressant aussi, parce que ça nous déplace beaucoup, hein, de représentations qui sont des représentations communes et qui l'interrogent. C'est vrai qu'il n'est pas créationniste au sens où il s'opposerait au fait de l'évolution, hein, c'est pas de l'évolution de la vie. Hein, et des formes de la vie, hein. Mais il discuterait sans doute l'évolutionnisme comme interprétation philosophique de ces données que nous apportent les investigations de l'archéologue. Mais moi, je pense aussi, alors ça dépend de ce qu'on appelle être créationniste, hein, mais là, ce débat est aujourd'hui plein d'ambiguïté entre créationniste et évolutionniste. C'est-à-dire que vous pouvez être créationniste et fondamentaliste en disant que finalement, tout simplement en rejetant l'idée d'une évolution des formes de la vie, etc. Et ça me semble tout simplement fou et faux. Mais moi, comme théologien, je suis créationniste au sens où la vie elle-même et l'humain ne sont pas le pur fruit d'une évolution de la matière, mais supposent une intervention immédiate de Dieu. Et qu'en est-il des commencements de l'humanité? C'est difficile à se représenter, mais je ne suis pas convaincu. Et de ce point-là, je trouve que le discours d'Hulst est intéressant, qu'il faille se représenter les commencements de notre humanité comme quelque chose de très, très fruste et de très barbare, dont progressivement. Alors, comme vous l'avez vu, la position d'Hulst, c'est de dire, mais bien sûr, il y a un progrès de l'humanité, il y a un progrès de la culture. Il y a un progrès de la technique et un progrès des arts. Ça, c'est tout à fait. Ça, il ne le remet pas en cause. Mais l'état primitif, sauvage de l'humanité n'est peut-être pas à concevoir comme celui de l'animalité et de la barbarie. C'est une des choses qui me semble intéressante dans ce qu'il dit de cette manière-là, c'est que ça permet de s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui les cultures premières ou les civilisations premières, dont on sait qu'elles peuvent être pleines d'une sagesse qui a déserté des sociétés plus évoluées. Ça, c'est une des choses qui me semble intéressante. Si on a une conception vraiment purement évolutionniste, hein, on arrivera vite à disqualifier des formes de culture qu'on dira primitive, archaïque, etc. Tandis que cette perspective-là dit que, au fond, à l'origine de l'homme, il y a non pas la barbarie, mais quelque chose qui est de l'ordre de la bonté, finalement. Donc, comment dire, le discours d'Hulst est très rapide. Et il appellerait beaucoup de développement, de nuances, mais en ce qu'il conteste des représentations aujourd'hui largement répandues et qui ne sont que des représentations finalement, hein, discutables en tant que telles, je le trouve intéressant. L'idée d'un homme singe qui progressivement devient l'homme digne de ce nom et puis qui progresse en humanité et en moralité avec le progrès des techniques. Ça me semble en fait discutable. Au fond, Dulles se place à l'origine de l'homme comme étant la partie la plus noble de lui-même, ce qu'il appelle la religion.
Il y a du côté rousseauiste dans cette vision. Donc au départ, on évoque une sorte d'éden. Je pense que c'est la volonté de aussi rejoindre la jeunesse, mais il y aurait eu un éden et ensuite l'homme aurait basculé dans la barbarie, quand même, d'après son le scénario qu'il évoque.
Oui et non, parce que il ne bascule pas nécessairement dans la barbarie. Hein. C'est pas, il y a quand même une histoire de l'humanité qui est une histoire qui est reconnue comme positive. Il y a un progrès, mais qui, selon Duss, doit être pensé comme lié au progrès de la connaissance et de l'amour qu'on a des réalités divines. C'est pas du tout la représentation la plus communément partagée, mais moi je la trouve intéressante. Par rapport à Rousseau, quand même, Rousseau ne pense pas le péché.
Non, d'accord, mais
Rousseau,
il imagine une société originelle, harmonieuse. Vraiment.
l'homme est un être parfait et solitaire. Solitaire, il n'y a pas le côté société fondamentalement chez Rousseau.
N'y a pas de société, il n'y a pas de péché originel chez Rousseau. Ouais. Quand vous avez parlé du corps, là, dans. Ça me fait penser à, je sais pas si ça, il a pu, le père, le Monseigneur Duss a influencé des gens comme, qui sont venus plus tard, là, comme Romano Guardini, l'esprit de la liturgie, parce que ça a beaucoup d'applications dans le domaine liturgique, cette histoire de, il y a toute une psychologie, là, du fidèle qui, une célébration, une liturgie doit pas être trop intellectuelle, ni trop plongée dans le sensible, mais cet équilibre, là, tout ça, là.
Oui, mais je pense que ce que vous dites chez Guardini est dans l'ensemble de ce qu'on appelle au XXe siècle le mouvement liturgique. Hein,
Ouais,
Guardini est un représentant. Je
c'est
pense
ça.
qu'en fait, c'est lié à une certaine anthropologie thomiste qui
Ouais.
affirme l'unité substantielle de l'âme et du corps. Enfin, en
C'est
tout
ça.
cas, c'est une des sources de ce renouveau. Alors c'est le principe qu'affirme ici Duss, mais ça le dépasse assez largement. Je ne pense pas qu'il ait eu cette importance pour un auteur comme Guardini. Bon, mais il appartient à au courant thomiste, et là on en voit l'intérêt pour penser la liturgie.
Un autre auteur auquel je pensais, c'est Jean Danielou, là, dans un livre comme Dieu et nous. Et tu sais, il y a des chapitres sur le Dieu des religions, le Dieu des philosophes, bon, le Dieu de la foi. Il y a quand même des parallèles, je pense, qu'on peut faire, là, que, dans ce sens que, il y a des choses, il y a eu un progrès, là, avec en arrivant à la foi, à la révélation chrétienne, mais que il y avait déjà une valeur, dans la représentation de Dieu, même dans les. Ben il y a des aspects d'erreur qui se glissaient dans les mythologies anciennes, là, mais c'est sûr que ce n'était pas le même manque de vision, là, c'était. Mais je ne sais pas si tu peux élaborer là-dessus un peu. Non?
Oui, vous avez raison de le rapprocher d'un auteur comme Jean Danielou. Alors là, encore une fois, je pense pas que, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs entre Jean Danielou et puis Duls, hein, et qui ont, surtout en milieu jésuite, qui ont développé toute une philosophie, une théologie de la religion dont hérite Jean Danielou. Mais Jean Danielou est sans doute un cas très intéressant pour repenser la religion comme un phénomène universel. Et il est le fondateur de l'Institut de théologie des religions de l'Institut catholique de Paris. Donc là, il y a quand même un lieu théologique qui, sur un siècle, a une certaine continuité.
Peut-être qu'il insistait moins sur l'aspect du rite ou du culte, tout ça, plus sur la compréhension de la
Oui.
représentation du divin comme tel. Je
Oui.
pense qu'on peut dire ça, hein? Ouais.
Oui, sans doute. Mais je n'ai pas lu le livre de Danielou. Donc voilà, il faudrait qu'il passe.
S'il y a d'autres questions, d'autres remarques, non?
Ouais, juste pour que je comprenne mieux, ayant plus de l'épaté aux précédents ateliers, le fait qu'il y ait cet éclairage sur Monseigneur Duss, c'est pour quelle raison? Vous n'êtes pas forcément convaincu de tout, d'où ça vient?
Oui, alors ça peut être un peu surprenant que j'aille.
féliciter cet auteur qui n'est pas, comment dire, reconnu comme un des grands noms de la philosophie ou de la théologie, hein, mais je trouve que c'est un auteur intéressant. Ce qui me semble intéressant dans le texte que j'ai distribué, que vous verrez, c'est qu'il rencontre de façon accessible des grandes affirmations du thomisme relative à la religion. Et il pense notamment à la religion comme une qualité d'âme, hein, naturelle, en fait. De ce point de vue-là, ça me semble intéressant. C'est toujours difficile d'exposer la pensée de saint Thomas sans plonger dans le texte. Et là, il le fait pour un public assez large, il le fait dans une très belle langue, donc ça me semble toujours un texte intéressant. Alors dans le cadre plus général de nos journées, c'est que nous partons donc de l'enseignement d'un thomiste aujourd'hui, qui appartient à un courant qu'on appelle le thomisme analytique, et qui pense le religieux, et qui dit en particulier la difficulté que les religions ont à coexister entre elles, hein, en disant qu'en fait une cohabitation est même impossible. Mais à mon sens, et c'est là que j'aimerais entrer en discussion avec lui, mais il viendra nous voir au mois d'avril, je pense qu'il a une conception, à mon sens, hein, trop intellective, trop intellectuelle, trop exclusivement théorique du fait religieux. Alors, je pense qu'il se défendra en disant que toute disposition, tout habitus, toute vertu est connexe à des affirmations, des énoncés. Il se trouve que ces énoncés-là, ils sont contradictoires d'une religion à l'autre. Donc, une religion professant des vérités différentes est une religion qui implique des attitudes différentes aussi. Et donc, nécessairement, l'idéal d'une coexistence pacifique des religions est voué à l'échec. Et c'est là que moi, j'ai une perspective un peu différente, en revenant à saint Thomas d'Aquin lui-même, en insistant, ce que M. Pouyvet fait assez peu, sauf à la fin de son ouvrage, sur la religion comme qualité d'âme, quoi, hein, voilà, je pense que je serais plus optimiste que lui sur la possibilité que les religions ont de coexister pacifiquement. Voilà.
Cela fait le lien un peu avec donc la suite, puisque
Oui.
on a encore un atelier la semaine prochaine, dans une semaine exactement, où on reparlera du livre de Roger
Oui,
Pouvet.
c'est déjà la semaine prochaine, oui.
Oui, voilà. Et comme vous disiez, il y aura une conférence finale, pour des personnes qui n'ont pas forcément suivi nos ateliers, hein, mais une conférence le jeudi 3 avril à 20 h, où l'auteur de ce livre, Roger Pouvet, viendra nous reparler de son livre et de la façon dont lui prend les choses.